Bonsoir, merci d'être avec nous. Autre invité, l'analyste politique René Lay, qui a bâti ici même à Washington, la capitale américaine, et qui suit de près la situation qui prévaut dans son pays natal. Merci également d'être avec nous. Je dois tout de même dire qu'on avait prévu d'avoir deux invités en direct de Dakar, mais malheureusement, en raison des problèmes de connexion, nous ne pouvons pas les joindre pour l'heure. Nous essayons tout de même de les avoir avant la fin de cette émission. Voilà, condamné à 2 mois de prison avec sursis pour diffamation et puis 2 ans ferme pour corruption de la jeunesse, mais acquitté des accusations de viol et de menaces de mort, l'opposant Ousmane Sonko parle donc d'un complot du pouvoir pour l'écarter de la présidentielle prévue au Sénégal en février prochain. Le gouvernement, lui, dément toute instrumentalisation de la justice et évoque plutôt des affaires privées. René Lay, pourquoi la dernière condamnation en date de cet homme politique de 48 ans a-t-elle mis le feu aux poudres?
Écoutez, Jacques, je pense que la question, c'est l'atmosphère, c'est le climat délétère dans lequel se trouve le Sénégal depuis quelques années, ça fait quoi, 4-5 ans? Parce qu'au fond, il y a un peu un goût de récidive ici. On se rappelle qu'en 2017, Khalifa Sall, qui était le maire de Dakar, lui-même s'est retrouvé en prison, tout simplement. C'était le plus, c'était l'adversaire politique potentiellement le plus sérieux pour le président Sall, et il l'a littéralement fait mettre en prison pour des raisons, disait-on à l'époque, de détournement d'utilisation de fonds, pas d'enrichissement personnel, mais d'utilisation de fonds. Donc, et à l'époque, c'était pour beaucoup, évidemment, une question d'instrumentalisation de la justice. Le président Sall lui-même, lors d'une conférence de presse, a dit, écoutez, dans certaines situations, j'ai mis le coude sur certains dossiers. Donc, avouant devant le public et devant tous les Sénégalais qu'il n'avait pas d'état d'âme s'il était nécessaire d'instrumentaliser la justice. Donc, c'est une série d'instrumentalisations de la justice qui est dénoncée localement au Sénégal, et je pense que c'est ça qui fait que l'atmosphère était telle que pour beaucoup, il était certain pour eux qu'on était encore dans une situation identique avec Ousmane Sonko.
Oui. Et très rapidement, René, le verdict le rend-il inéligible au scrutin de 2024?
Ah oui, potentiellement. Déjà, le premier qu'il a eu il y a 2 mois sur un cas de diffamation, de facto le rend inéligible si c'est confirmé, et c'est la même chose pour dans le cas d'espèce. Donc, il y a deux verdicts qui le rendent inéligible, à moins que le code électoral ne soit changé, et ça fait partie des discussions dans le cadre du dialogue national.
Lui, Kemayou, d'après vous, quelles sont les motivations des manifestants qui sont descendus dans la rue pour soutenir Ousmane Sonko? S'agit-il d'un mouvement politique ou d'une contestation sociale?
Je pense que c'est un mélange des deux. Il y a la perception que le principal concerné en a, il y a la perception que ces militants et la population en ont, et puis il y a le fait que théoriquement il y a une séparation des pouvoirs au Sénégal. On ne peut pas dire que la justice est à la botte du gouvernement. Cependant, quand on se rend compte qu'il y a une accumulation de cas, parce que nous avons parlé de Khalifa Sall, mais on pourrait également parler de Karim Wade, dont le jugement a été plus que controversé, et surtout la libération a été plus que controversée, et donc cette accumulation de faits politiques, de faits judiciaires, avec une connotation politique, fait qu'aujourd'hui on a l'impression qu'il n'y a jamais 203, mais que l'idéal serait qu'il n'y ait pas de troisième cas dans lequel la justice soit instrumentalisée par le pouvoir pour exclure un acteur politique. Et je pourrais même aller beaucoup plus loin et dire que déjà dans les années d'indépendance, les premières années d'indépendance, bien que le Sénégal ait une culture démocratique très ancienne, il y a eu le cas d'Amadou Dia qui avait été considéré également comme un cas de justice instrumentalisé par le pouvoir politique en place, celui de Léopold Sédar Senghor.
René Lay, quelle est la responsabilité du gouvernement, du chef de l'État dans cette crise? Macky Sall a-t-il commis des erreurs? A-t-il tenté de calmer les tensions ou au contraire de les attiser?
Oui, écoutez, Jacques, c'est comme dans toutes les situations, ça dépend à qui vous posez la question. Si vous posez la question à l'opposition, bien entendu, elle vous dira qu'il a l'essentiel de la responsabilité. Comme je le disais tout à l'heure, oui. L'instrumentalisation systématique de la justice, notamment pour écarter les candidats les plus sérieux, ses adversaires politiques. Maintenant, si vous posez la question aux gens du pouvoir, aux gens autour du président Sall, ils vous diront non, la justice sénégalaise est relativement indépendante. Et puis, Ousmane Sonko s'est retrouvé lui-même dans une situation particulièrement inconfortable d'un point de vue moral, en particulier par rapport à son propre discours. Et il est victime de ses propres turpitudes. Et la justice ne fait que son travail. Nous n'avons rien à voir avec cela. Malheureusement, son discours populiste et manipulateur fait qu'il arrive à convaincre quelques jeunes d'aller dans la rue. Donc tout dépend de qui vous posez la question. Mais la société civile, de manière générale, considère qu'effectivement, il y a une instrumentalisation de la justice. La preuve, une série d'intellectuels, de gens non partisans le disent et le répètent, l'écrivent et le crient sous tous les toits.
Lui, Komayou, quelle est la réaction de la communauté internationale face à la crise sénégalaise? Les organisations régionales ou internationales ont-elles exprimé leurs préoccupations ou leur solidarité?
Pour le moment, il y a une vraie préoccupation de la part des pays de la CEDEAO qui sont les premiers voisins, les voisins immédiats du Sénégal. On n'a pas beaucoup entendu Oumarou Mbalo, qui est le président actuel de la CEDEAO, sur ces événements. Le fait est qu'il y a une vraie préoccupation de la part des États. On a déjà eu le précédent ivoirien avec la Côte d'Ivoire qui reste la locomotive économique et le phare politique de la CEDEAO, c'est le Sénégal, avec cette démocratie et cette culture démocratique très ancienne. Et donc, si le Sénégal est ébranlé, cela aura naturellement un gros impact dans les pays voisins, à commencer par la Gambie, avec la crise casamanceaise qui pourrait relancer à travers ce que nous sommes en train de vivre. Il y a également la préoccupation des pays du Sahel et les autres pays environnants du Sénégal qui se demandent ce qui pourrait advenir si jamais le Sénégal basculait également, lui, dans une violence avec une connotation terroriste, comme c'est le cas dans la plupart de ces pays-là. Donc aujourd'hui, on regarde avec beaucoup d'attention. Il est à peu près certain que les uns et les autres se préparent à apporter l'aide dont le Sénégal pourrait avoir besoin dans les négociations. Le dialogue national a commencé. Si jamais il y avait besoin de l'aide des voisins, je pense que tous se pencheraient sur le berceau du Sénégal pour éviter que lui aussi il bascule dans la situation que connaissent la Guinée, le Burkina et le Mali actuellement.
Je vous propose maintenant un des commentaires tirés de la page Facebook de VOA Afrique. Mamadou Ouribari, Dakar, Sénégal. Moi, je pense que ce n'est pas en saccageant tout bien confondu, public et privé, qu'on pourra gouverner ce pays-là. Donc, celui qui aspire à gouverner ce pays ont intérêt à apaiser la situation, car pour espérer gouverner demain, il faudra bien faire les choses aujourd'hui. Mamadou Barry, qui me tend la perche pour poser la question suivante à Pierre Sané. Je vous disais qu'on essayait d'entrer en contact avec deux autres invités qu'on avait prévu d'avoir dans cette émission. On a pu joindre Pierre Sané, il nous joint au téléphone. Pierre Sané, qui a été de 1992 à 2001 secrétaire général d'Amnesty International. Alors, Pierre Sané, si vous m'entendez, brièvement, qui est Ousmane Sonko? Pourquoi rêve-t-il de succéder à Macky Sall? A-t-il un programme, une vision pour le Sénégal?
Oui, bonjour, vous m'entendez?
Nous vous entendons, Pierre.
Ok. On a quelques difficultés ici parce qu'il y a des restrictions sur Internet et sur les réseaux sociaux, mais j'espère que d'ici quelques jours, tout ça va être levé. Ouais. Alors, qui est Ousmane Sonko? Si vous voulez, son parcours, c'est un ancien haut fonctionnaire qui a été rayé de la fonction publique pour activité politique et qui a réussi avec des années à lui à monter un parti qui est monté vraiment en puissance en moins de 10 ans. Le parti a été créé en 2014 et c'est un parti qui est dirigé par une équipe de cadres issus de la classe moyenne, des cadres compétents, des cadres engagés et des cadres dévoués à la cause, le patriotisme. Ousmane Sonko aujourd'hui représente un symbole. Et le symbole, c'est l'espoir enfin d'un changement et enfin d'une rupture. Mmh. Depuis 1960, la date de l'indépendance, nous sommes sur une continuité. Malgré deux alternances paisibles, oui. Mais il n'y a jamais eu de transformation de l'héritage colonial, aussi bien du point de vue économique que du point de vue fonctionnement de la politique et de la gouvernance, que de la condition sociale des populations sénégalaises. Nous avons toujours un taux de pauvreté extrêmement élevé, nous avons un taux d'analphabétisme dans le pays de Senghor où 50% de la population est analphabète, ne sait pas lire et écrire, donc ne sont pas de véritables citoyens. Et pour changer ça, il faut procéder à des réformes approfondies. C'est ce que Mamadou Dia, à l'époque, quand il était président du Conseil, avait essayé de mettre en œuvre, mais les dominants de l'époque, pour préserver le statu quo, ont organisé un coup d'État contre Mamadou Dia. C'est vrai qu'il y a une culture politique au Sénégal, mais il y a très peu de démocrates. Donc il peut y avoir une culture politique, il peut y avoir une aspiration démocratique des populations, mais ceux qui sont dans le jeu politique ne sont pas toujours des démocrates. Il y a toujours une tentation de manipulation des élections, de manipulation des institutions afin de conquérir ou de maintenir les équipes dirigeantes en place. Et je crois que la crise aujourd'hui, ce n'est pas uniquement dû au procès de Sonko qui est perçu comme une énième injustice, une énième persécution, mais c'est aussi la fin d'un système. Le système qu'on a hérité depuis la colonisation, qui n'a jamais été changé, est arrivé à bout de souffle et ne peut plus répondre aux aspirations de la jeunesse, pas seulement de la jeunesse d'ailleurs, mais des populations.
Oui. Alors, s'il vous plaît, n'allez nulle part ailleurs. À la suite du Washington Forum, ce sera après cette courte pause.
Se racontent et se rencontrent. Les dernières tendances mode, mais aussi les gadgets indispensables,
les avancées technologiques, l'entrepreneuriat de jeunes, un pont entre l'Afrique et le Nouveau Monde pour diffuser nos cultures.
Et les bons petits plats,
une bonne ambiance avec nos invités.
L'émission explore les réussites, les ambitions et les aspirations africaines.
Elle montre une Amérique loin des clichés à taille humaine.
Vous et nous, c'est nous,
c'est vous et nous.
De retour avec vous dans Washington Forum. Un coup de projecteur ce jeudi 8 juin 2023 sur les vives tensions au Sénégal où la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko à 2 ans de prison ferme dans une affaire de mœurs a déclenché les heurts les plus violents qu'ait connu le pays depuis des années sur fond de ras-le-bol exprimé notamment par de nombreux jeunes face à la crise économique et sociale. Et nous retrouvons nos invités. Pierre Sané se trouve à Dakar, ancien secrétaire général d'Amnesty International. Il a aussi été sous-directeur général des sciences sociales et humaines de l'UNESCO à Paris. Via Skype de Lomé au Togo, Louis Magloire Kemayou, directeur de la chaîne de télévision New World Economy, et l'analyste politique René Lake, basé ici même à Washington. Pierre Sané, les derniers troubles ont-ils impacté l'économie du pays? Brièvement, si vous pouvez.
CFA par jour, parce que ce n'est pas uniquement l'économie formelle qui a été impactée, mais l'économie populaire aussi. Vous avez des gens qui sortent tous les jours pour gagner de l'argent, qui vivent au jour le jour, et qui ont été obligés de rester chez eux parce que leur magasin était fermé, parce que la rue était occupée par d'un côté les manifestants et de l'autre côté les forces de l'ordre. Il est sûr que les investisseurs, aussi bien nationaux qu'internationaux, retiennent leur souffle pour voir dans quelle direction ça va aller. Pareil pour les agences de notation, pareil pour les institutions financières internationales, parce que, si vous voulez, le premier critère en termes de décision d'investissement, c'est la stabilité politique. Or, ça fait, ce sont les deuxièmes émeutes en deux ans, précisément deux ans, qui démontrent quand même une certaine fragilité dans la gouvernance et une certaine défiance vis-à-vis de l'autorité.
Ouais. Surtout après la pandémie de Covid-19. René Lay, quelles sont les perspectives pour le dialogue entre le pouvoir et l'opposition au moment où le président Macky Sall entretient le flou au sujet du prochain scrutin? Existe-t-il des acteurs susceptibles de jouer un rôle de médiation d'après vous?
Oui, écoutez, je ne sais pas, c'est difficile à dire parce que le dialogue national à l'initiative du président Sall, ce qu'on appelle un peu l'aile radicale de l'opposition, donc celle autour de Ousmane Sonko, n'y participe pas. Elle a refusé d'y participer, ça c'est le premier problème auquel ils sont confrontés. Le deuxième, le dialogue a quelque chose de relativement unilatéral, parce que c'est le président de la République lui-même, sans concertation avec l'opposition, qui a déterminé que bon, ce sera Mustapha Niass, l'ancien président de l'Assemblée nationale, qui va le diriger. Donc certains membres de l'opposition qui ont malgré tout accepté de participer au dialogue contestent cela. Donc on va voir comment ça va se passer. Mais bon, c'est sûr que la partie de l'opposition qui participe au dialogue avec le pouvoir aujourd'hui est relativement significative, certainement pas autant que celle de Ousmane Sonko, mais il y a quand même des ténors comme Khalifa Sall notamment qui sont présents à ce dialogue, et on va voir ce que ça peut donner. Effectivement, ça peut aboutir à des décisions relativement consensuelles, mais je ne suis pas très optimiste pour ma part.
Mohamed Mougar Sarr, Raphaël Win Sarr et Boubacar Boris Diop, trois intellectuels de renom du pays, imputent la crise actuelle à ce qu'ils appellent la dérive autoritaire de Macky Sall, une accusation que le gouvernement rejette fermement en invoquant son attachement à la démocratie et au maintien de l'ordre. Mais pour les trois intellectuels, de toutes les crises que le Sénégal a connues depuis son indépendance, celle qui règne actuellement est la plus simple à résoudre. Il suffirait qu'un homme dise « Je renonce à briguer un troisième mandat qui déshonorerait ma parole d'homme, mon pays et sa constitution », écrit-il. Lui, ma gloire, que Mayou, partagez-vous cet avis? Est-ce là la sortie de crise?
Je pense qu'aujourd'hui, le Sénégal est en train de vivre ce que vivent la plupart, parce qu'on ne peut pas nier le fait que, sur le papier, c'est quand même l'un des pays d'Afrique de l'Ouest ou d'Afrique francophone de l'Ouest qui a une très longue culture démocratique. Ça, on ne peut absolument pas le nier. On ne peut pas nier non plus que l'expérience qui a été acquise pendant toutes ces années-là ne distingue malheureusement pas le Sénégal des autres pays, parce qu'en période électorale et surtout en période pré-élection présidentielle, les esprits s'échauffent énormément, et on l'a vu pendant la dernière présidentielle, au cours de laquelle, malgré les résultats qui donnaient le président Macky Sall vainqueur, beaucoup de personnes avaient estimé que la victoire était contestable. Et certains estimaient aussi que, même si elle est contestable, il ne faudrait pas attaquer le président Sall pour une raison simple, c'est qu'il a deux mandats à faire, il terminera son deuxième mandat, et l'alternance se fera et le jeu politique reprendra son cours normal. Or, aujourd'hui, on a l'impression que non seulement il y a une possibilité de troisième mandat pour le président Macky Sall, qui pour l'instant ne s'est pas prononcé, mais beaucoup de ses partisans estiment que, n'ayant pas pu raccourcir son mandat lors du premier mandat où il avait été élu pour 7 ans, parce que la Cour constitutionnelle ne l'avait pas permis, il a dû faire la réforme au deuxième mandat pour que le pays passe d'un septennat à un quinquennat, ce qui lui donne le droit de se présenter une troisième fois. Et c'est justement là qu'il y a le problème, et la violence avec laquelle les acteurs agissent correspond à peu près de façon inverse à la situation d'autisme dans laquelle se trouve le président Macky Sall, qui ne veut pas prendre en compte les considérations et des autres acteurs politiques et de la population qui estime que le jeu politique, c'est pas sur les arrangements ou la volonté. La seule volonté du président, c'est également la volonté et la participation de tous les acteurs à un niveau égal. Donc deux mandats correspondent bien à deux mandats. Et malheureusement, le président Macky Sall utilise tous les instruments de l'État pour pouvoir contourner cette règle qui semble être assise et même inscrite dans la Constitution.
En tout cas, les appels à la retenue et au dialogue se sont multipliés ces derniers jours de la part de plusieurs pays comme la France ou les États-Unis, d'organisations internationales et de personnalités sénégalaises telles que le chanteur Youssou N'Dour ou le footballeur Sadio Mané. Petite parenthèse pour dire qu'hier, mercredi, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a eu une conversation téléphonique avec le chef de l'État sénégalais Macky Sall. Alors, René-Pierre Sané, que doit faire le Sénégal pour demeurer un modèle pour l'Afrique et le monde? Comment ce pays peut-il préserver sa stabilité et sa démocratie, Pierre Sané?
Oui, je crois que d'abord il faut revisiter ce narratif comme quoi le Sénégal est un pays modèle en termes de démocratie. Il y a d'autres pays africains comme le Cap-Vert, comme le Botswana, comme l'île Maurice qui méritent mieux cette étiquette de modèle que le Sénégal. Donc il faut quand même faire en sorte que ce que l'on proclame, ce que l'on écrit, que les lois que l'on fait soient respectées, surtout par ceux qui sont au pouvoir. Quand Boris Felwin et Bouga par dérive autoritaire, je vous rappelle qu'il y a aujourd'hui près de 1000 détenus politiques au Sénégal. Les prisons sont pleines. Les gosses dorment dans les prisons assis parce qu'il n'y a pas de place pour se coucher. La torture est pratiquée libéralement comme au temps de Léopold Sédar Senghor. Il y a donc des pratiques autoritaires, je dirais même totalitaires, qu'il faut s'empresser auquel il faut s'empresser de mettre fin parce que ça risque de nous entraîner vers une pente de plus en plus glissante et de plus en plus dangereuse. Donc il faut libérer les prisonniers politiques qui sont près de milliers. Il faut permettre à tous ceux qui souhaitent être candidats à la présidence, aux élections présidentielles d'être candidat. Il faut que le président Macky Sall respecte la Constitution qui lui interdit clairement de faire plus de deux mandats consécutifs. Or, il maintient le flou. Oui. Il est dans la ruse, il est dans la tromperie.
Alors, le temps passe très vite, malheureusement. Je dois quand même préciser ce que le gouvernement, le pouvoir, a dit concernant cette tribune par les trois les intellectuels du Radiap. Un conseiller du chef de l'État a contre-attaqué en qualifiant la tribune de ces intellectuels de fondamentalement partisane, qui ignore les appels permanents à l'insurrection de la part du parti de Sonko, selon lui, pour échapper à la justice. Ce texte, contrairement au j'accuse de Zola, qui a été comme un craquement d'une allumette dans une nuit noire pour parler comme un boucard, sera comme les traces d'un chameau dans une tempête de sable, écrit Yura Dia dans une tribune également. Voilà donc du tas de Kotak. Point final à ce Washington Forum. Un grand merci à nos invités, René Leek, Pierre Sané et Louis Comadou. J'en profite pour faire un clin d'œil à toutes les radios et les partenaires de VOA. Et bien évidemment, merci à vous, chers amis fidèles de la Voix de l'Amérique. Merci de nous avoir accueillis chez vous cette semaine. C'était Jacques Aristide de Washington. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous et des autres aussi. C'est clair.